Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris-Île-de-France, à la veille du retour de la Ligue des Champions, Brest-PSG J-1 avec ce barrage aller franco-français. Pour en parler, pour évoquer plein d'autres choses, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, c'est notre invité ce soir, Monsieur Boukhari Dramé, ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Bonsoir.
Salut Boukhari.
Merci pour l'invite.
Merci d'être avec nous pendant toute l'émission. Aurélia Grossman, supportrice du PSG, est là également. Salut Aurélia.
Bonjour.
Et Omar Altundag, journaliste sportif.
Bonsoir Julien, bonsoir Omar. À tous.
Allez, on y va pour le sommaire avec une mise en bouche appétissante ce soir. PSG Monaco, vendredi au Parc des Princes, victoire probante du PSG avec un Ousmane Dembélé toujours plus décisif. Brest, PSG en seconde partie. Le PSG, au vu de sa forme actuelle, a-t-il déjà son billet en poche pour les huitièmes de finale? Les arguments pour et contre avant ce barrage aller de Ligue des Champions. Et puis on reviendra sur cette immense vague de prolongation célébrée vendredi au Parc des Princes. Le PSG a-t-il bien fait de prolonger aussitôt Luis Enrique? C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisport. Cop Paris, c'est parti. Alors, un vrai Titi parisien, ça nous fait toujours plaisir. Invité ce soir, invité d'honneur de Cop Paris, Boukhari Dramé est avec nous ce soir en plateau. Merci encore, Boukhari. On va rappeler ton parcours. Toi qui es né, tu m'arrêtes si je dis la moindre bêtise, à Villepinte, yes. Formé au PSG avec lequel tu as évolué pendant deux saisons, Coupe de France au palmarès avant de t'envoler vers d'autres cieux, Sochaux, l'Espagne, une belle carrière également en Serie A. Tout simple, ton meilleur souvenir au Paris Saint-Germain, Boukhari?
Mon premier match, ouais. Contre Strasbourg. Et c'est avec sous les ordres de Laurent Fournier.
Ouais. Voilà. C'est marrant, les joueurs formés au club nous disent souvent le meilleur souvenir, c'est le premier match ou la signature du premier contrat.
Oui, parce que en tout cas à l'époque c'était vraiment difficile. Mm-hmm. Donc pour y arriver, c'était voilà. Quand tu arrivais, c'est vraiment là, tu savais que tu avais fait un exploit, je dirais exceptionnel. Et puis au parc. Le parc aujourd'hui, c'est emblématique. Mmh. Quand on parle du parc, c'est automatiquement ça va avec PSG. Voilà.
Omar, je crois que tu voulais rebondir justement sur ce côté jeune au Paris Saint-Germain à l'époque.
Ouais, parce que du coup, tu vois, tu as eu un passage au PSG qui a été. Tu sais, c'était un step pour toi dans ta carrière. C'était vraiment ton premier gros club. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque, tu as peut-être eu un peu de mal à t'imposer dans cette équipe?
Ben, je pense qu'il a. J'aurais dû rester tout simplement. Parce que je pense que j'aurais pu m'imposer, très franchement. Je pense que j'avais le niveau. Il m'aurait peut-être fallu un prêt, comme certains l'ont eu, comme Rabiot, mm-hmm. ou autres, qui m'auraient fait comprendre. Parce que, mine de rien, quand j'étais arrivé à Sochaux, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'être à Paris. Je ne parle pas du terrain. Ou
tu parles de la ville, là?
Non, du confort qu'on avait.
Ouais. Ah oui.
Et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Quand je parle avec mes anciens coéquipiers, c'est ce qu'on a tous constaté une fois qu'on est parti. Ouais. Et je pense qu'un prêt m'aurait fait comprendre et je serais venu plus fort.
Tu aurais pu t'imposer. Voilà. Un souvenir que tu voulais évoquer avec Boukhari, un petit peu particulier.
Oui, alors j'espère que ça ne va pas t'embêter de parler de ça. Il y avait une espèce de légende, et je crois que tu en as déjà parlé, mais je ne suis pas sûre. Tu m'as dit que peut-être tu en avais
déjà parlé.
Une légende d'un match qu'on a perdu. En plus, on déteste ça. Avec un but de Loric Sana. Une légende dont j'entends parler depuis longtemps, mais je suis contente que tu sois là. Est-ce que vraiment on a perdu un match à Marseille 1-0 avec un but de Loric Sana parce que vous auriez été mis dans un coin bizarre vous auriez été obligé de passer par un bureau où il y aurait eu Clara Morgan avant d'aller sur le terrain? Est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est une légende urbaine?
Figure-toi que oui, c'est vrai.
Mais non, c'est sérieusement.
Ah oui. Mais à chaque avant-match d'OM Paris,
tentative de déstabilisation.
On me l'envoie à chaque fois.
C'est vrai?
Ouais, Bouka. Je l'ai faite, ça fait des années maintenant.
D'accord.
Et c'est vrai.
C'est une vraie histoire.
Oui. On était arrivé au stade et le vestiaire principal, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'ils ont gazé ou quoi, c'était un.
Il y avait une odeur d'ammoniac.
Ouais, ça nous piquait les yeux et tout. Donc, du coup, nous ont mis dans un vestiaire annexe. Et là, je crois que tout était calculé, en fait. Ouais. Parce que du vestiaire pour aller chez le kiné, il fallait traverser un couloir. ouvrir une porte, traverser un couloir, et il y avait des escaliers. Et dans les escaliers, il y avait...
Et là, il y avait Clara Morgan.
Clara Morgan avec Michael Youn.
C'est complètement ça, absurde.
Mais c'est vrai.
Mais en même temps, c'est génial d'arriver à gagner un match.
Et
comme
après, il y avait des joueurs qui disaient « Oh, Clara Morgan !»
Ils voulaient tous aller chez le kiné.
Ils parlaient plus. Pour de vrai, je dis pas les noms.
Hey, les hommes, ça reste des hommes.
Là, j'ai les images, là, en tête.
Si tu peux nous dire maintenant.
Non.
Donc, ils parlaient plus du match, ils étaient pas concentrés.
En tout cas, ça parlait beaucoup de...
Ça parlait d'un autre ballon.
Bon, bah voilà, maintenant, je le savais. Je pensais que c'était une légende urbaine, moi.
Non, c'est vrai.
Je pensais que c'était une légende.
On va revenir, les amis, au PSG actuel et à ce PSG Monaco qui nous a offert d'autres étincelles. Vendredi, en Ligue 1, les images des 5 buts de cette rencontre avec tout d'abord le coup de maître, le coup de génie de Vitinha qui fête sa prolongation avec ce coup franc direct. L'ASM égalisera 10 minutes plus tard par Zakaria, un petit peu aidé, on peut le dire, par un Donnarumma, pas exempt de tout reproche sur ce coup-là. L'autre chef-d'œuvre de cette rencontre, c'est le premier but de Kvaratskhelia sous le maillot parisien. Tout en finesse et tout en talent. Et puis notre serial buteur entre en scène, Ousmane Dembélé. Tout d'abord servi par Doué, puis par Nuno Mendes, s'offre un nouveau doublé meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations. Aurélien, on commence presque à s'habituer à le voir empiler les buts. Ça vous étonne encore ou vous vous dites, ça y est, le déclic est là?
Bah franchement, ça fait plaisir de voir une telle efficacité parce qu'en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on sent qu'il est létal devant le but. On sent vraiment cette notion de danger quand il entre dans la surface qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et je pense que c'est notamment dû à son replacement en attaque qui fait qu'il est moins fatigué quand il arrive dans la zone de vérité, ce qui lui permet d'être beaucoup plus efficace et de marquer beaucoup plus durant les derniers matchs.
Il a enfin changé de dimension, Aurélia, Ousmane Dembélé.
Ah bah oui, parce qu'en plus, là, il ne met pas un but, il en met deux ou trois par match, carrément. Non, moi, ce que je trouve très impressionnant, c'est que avant quand même on lui tapait beaucoup dessus, mais toutes les actions depuis un bon moment démarraient par lui quand même. C'est-à-dire qu'il plantait pas, mais c'est lui qui accélérait le jeu. Là, il est capable. Alors, il a été replacé, donc il marque plus. C'est
il
moins lui.
À l'origine, mais beaucoup plus à la conclusion.
Exactement. Et quand même, à ce poste-là, il est assez incroyable. Ouais. Là, en ce moment, c'est un des meilleurs d'Europe.
Et quel regard tu portes, Boukhari, sur Ousmane Dembélé et cette évolution?
Moi, j'espère juste qu'il reste constant.
Ouais.
C'est ce qu'on lui donne.
Voilà. Tout le monde a
parce qu'on est là, on l'encense et on a peur, en fait, de la, on va dire, la rechute. C'est juste ça. J'espère qu'il va rester dans sa bulle.
Il va le rester, selon toi?
Bah, en fait, je l'espère.
Ouais.
Bon, là, j'ai l'impression qu'il y est pour de bon. Peut-être que Luis Enrique a trouvé la bonne formule, hein, parce que des joueurs comme ça, des fois, c'est des détails qui font la différence. Espérons, parce que l'équipe monte aussi en puissance, l'équipe se connaît mieux, joue mieux. Ça fait plaisir de les voir en ce moment et voilà, on espère.
Vas-y Omar.
Non mais puis au-delà d'Ousmane Dembélé, justement, il y a tout un collectif derrière. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a eu des matchs extrêmement intéressants. Et on a eu Kvara. Donc son premier match, son premier but face à Monaco, il y a le match de João Neves qui est vraiment incroyable, il y a Vitinha et c'est tout ce collectif là qui est à la hauteur des performances de Dembélé et du PSG.
Je rebondis sur le but de Kvara, ça va lui faire du bien forcément ce premier but et c'est un but aussi qui marque les esprits de par le talent, l'esthétique.
La double feinte, bah, à l'heure actuelle le défenseur monégasque glisse toujours, il est arrivé à Porte de Saint-Cloud je pense. Mais,
ce qui est génial c'est que quand un joueur il est transféré et qu'il a coûté cher, on sait la pression qu'il y a et là en fait je pense que ça lui enlève la pression et ça va lui permettre de s'habituer tranquille. Il ne faut pas non plus imaginer qu'il va tout de suite être au top tout le temps et faire que des beaux gestes comme ça. Mais il lui faut un temps d'acclimatation. Mais en tout cas, ça enlève la pression. Ouais. Et ça, c'est super.
Boukhari, Omar le disait, c'est vrai qu'il n'y a pas que Dembélé, il n'y a pas que Kvara, il y a Doué, il y a Barcola. Il y a un réservoir de talent offensif qui est assez immense. Et ça, pour un défenseur, remets-toi un petit peu dans la peau du défenseur, ça doit être terrible pour défendre.
Ah oui, ça te donne plus de confiance et de force pour aider l'équipe, pour performer comme ils le font actuellement. J'espère vraiment, parce que après, moi c'est surtout la Ligue des Champions, là où je pointe plus le doigt, parce qu'on cherche tous ça. Voilà. Parce qu'après le championnat, on a l'habitude, on va dire, même si des fois, ça peut être des fois en dents de scie, mais ça gagne quand même, et voilà, on avance.
On a une minute juste pour faire le petit flop. On en sort toujours, hein, on est comme ça, malheureusement. Le petit flop de PSG-Monaco, mais plus global depuis quelques semaines, c'est Pacho, très convaincant sur la phase aller, un petit peu moins brillant sur les derniers matchs. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Il y a des circonstances atténuantes?
Pacho, bon, il est responsable sur le but de sa carrière, mais après, j'ai trouvé qu'il avait fait une performance plutôt intéressante.
Ouais, il y a un très, très bon retour
vendredi,
sur
ouais. Notamment son tacle. J'ai eu très peur du pénalty à vitesse réelle, ouais. Et après, on voit qu'il prend bien le ballon, mais moi, j'ai trouvé que c'était une performance plutôt intéressante. Alors, il y a un peu de moins bien, certes. Mm-hmm. De là à tirer la sonnette d'alarme, je ne sais pas trop.
Aurélia sur Pacho ? Non.
Moi, je pense que... Non, parce qu'en fait, un défenseur, il peut faire une erreur dans un match, surtout quand il est jeune et que, voilà, il a
23
encore...
23 ans, hein. C'est le joueur
il
le
est très jeune, exactement. C'est celui qui a vraiment joué le plus de matchs. Moi, je dirais que c'est plus la faute de Donnarumma que...
Pacho, il t'impressionne, il te rassure ?
Il m'impressionne. Ouais. Très franchement, c'est très fort.
Pas lui taper dessus pour
j'étais
venir.
Vraiment impressionné.
Comment on fait premier... quand on est un défenseur ? Parce que voilà, l'attaquant doit travailler devant le but pour se remettre un petit peu en selle.
Non, on sait qu'on ne peut pas être parfait. Ouais. On sait qu'il y aura des moments où peut-être qu'on va faire des erreurs. Hein. Tous les grands joueurs ont déjà fait des erreurs. Mais sur le but, on peut l'impliquer, mais... À moitié, c'est la plus grosse erreur, selon moi, c'est Donnarumma.
Voilà. Les petites coupures pub et on va se retrouver dans quelques instants pour parler de ce dont tout le monde veut parler, la Ligue des Champions, Brest-PSG. C'est déjà demain soir. De retour dans Cop Paris avec la petite musique qui va bien avec mes trois invités du soir, Boukhari Dramé, ancien joueur du PSG, Aurélia Grossman et Omar Altoundag, J-1 avant le retour donc de la Ligue des Champions. On est à moins de 24 heures de ce Brest-PSG, match aller demain soir au stade du Roudourou. Alors horaire inhabituel, attention, coup d'envoi à 18h45, les autres matchs à partir de 21h avec notamment un Manchester City-Real Madrid assez alléchant. On a la sensation, à tort ou à raison, que le PSG est l'immense favori de cette double confrontation. L'idée que le PSG aurait déjà son billet en poche pour les huitièmes circule beaucoup. Est-ce que c'est une erreur ou cela relève d'une certaine logique ?
Alors, moi, je déteste quand on part gagnant. J'ai un vieux trauma qui s'appelle Lemino. Je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà, ouais, on n'en parlera pas.
Le 1 partout.
Exactement. En fait, moi, Lemino.
J'avais
compris. Je suis contre l'idée de partir gagnant. De toute façon, sur un match, tout est possible. Évidemment qu'on est largement favori. Mais il ne faut pas prendre ce match comme déjà passé et regarder le match d'après. Parce que ça, c'est la meilleure manière de se planter.
Il faut toujours se méfier avec le PSG, spécialement en Coupe d'Europe.
Après, franchement, honnêtement, ça se jouerait sur un match. Je me dirais peut-être que Brest a l'occasion de faire quelque chose. Quand bien même, demain, on prend 3-0 au Roudourou, il y a le match retour au Parc dans une semaine.
Okay.
Je ne vois pas dans quel monde Brest peut passer ce tour-là. Et après... Ils ont fait leur petit bonhomme de chemin.
Voilà,
c'est très bien.
J'ai une question. Merci, est-ce que dans n'importe quel monde, t'imaginais Brest à ce niveau-là aujourd'hui ?
Absolument pas.
Non. Voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier, parce qu'on les imaginait tellement pas là. Autant Monaco, j'aurais pu croire.
Et c'est la Coupe d'Europe. C'est vrai que ce n'est pas qu'un match de Coupe. Toi qui as joué la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, Coupe de l'UEFA.
Ouais.
Il faut que le PSG soit quand même en alerte face à Brest.
Oui, parce que on ne sait jamais. Hein. Il faut leur montrer tout de suite qui sont les plus forts, qui doit passer le tour. Et puis voilà, respecter la logique qu'il y a déjà dans le championnat et la logique tout simplement.
Alors une équipe du Stade Brestois, on va voir les images, et c'est quand même aussi important de le souligner, qui est en forme actuellement. Brest s'est imposé à Nantes vendredi 2-0. On va revoir les images avec des buts de Ludovic Ayork qui avait pas mal fait trembler Pacho il y a quelques semaines. Et Pierre Lesmelou, 4e victoire sur les 5 derniers matchs. La défaite, c'était face au PSG. C'est une équipe que le PSG a énormément affronté. Le PSG a quasiment toujours gagné, Omar, mais souvent dans la douleur. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que le PSG va gagner avec un match compliqué ?
Dans la douleur, ça dépend, parce que tu regardes la dernière confrontation, on en a mis 5 à Francis
Meublé. Il y a deux partout.
Oui, il y a deux partout au Parc, je sais, j'y étais.
Non, il y a deux partout, il y a deux partout à un quart d'heure de la fin du match, il y a deux semaines à Brest.
Oui, mais après, tu sens que... Mais c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que tu sens que quand on accélère, si on passe, entre guillemets, le mode européen, c'est pas de leur faute, mais Brest peut pas suivre.
Ouais.
Donc on a cette marge de sécurité là, quelque part.
Est-ce qu'il y a des joueurs, Pierre Lesmelou, Ayork, enfin vous me citez qui vous voulez, ou des éléments, peut-être le collectif qui peut vous inquiéter dans cette équipe?
Oui, c'est ce collectif justement, parce qu'on sent une équipe très solidaire, qui se connaît très bien, qui sait comment jouer ensemble. Et voilà, c'est leur seule force.
Et puis à noter que sur le dernier match, donc le 5-2, Ayork avait fait beaucoup de mal à Pacho justement, dans le duel physique, il l'avait dominé. Donc faire attention à ça, je pense.
Il y aura peut-être un petit avantage pour les Brestois demain. On va les écouter. On va écouter Pierre Lesmelou. Et dans une semaine au Parc, c'est le fait vraiment de jouer, ils le disent, sans pression, contrairement peut-être aux Parisiens. On écoute Pierre Lesmelou.
Nous, aucune pression, que du bonheur, que du positif. On a cette chance d'avoir toujours zéro complexe, de toujours jouer avec nos valeurs, avec le cœur. Donc on n'y va pas un petit enfant, quoi, si j'ai envie de dire. On va essayer de se défendre et de jouer au mieux notre carte.
Aurélie, aucune pression pour Brest, toute la pression sur le PSG finalement.
Bah, évidemment, on est tellement largement vu vainqueur qu'en fait, à moins d'une catastrophe ou d'un scénario très PSG, c'est pour ça que je me méfie toujours de mon équipe chérie.
Tout à l'heure, tu parlais d'Imino, je ne pensais pas instinctivement à ça. Mais
ce que je veux dire, c'est que tout est possible avec Paris. Donc comme tout est possible, je préfère pas m'emballer avant,
certes,
avant
le match. Mais après, Brest, ils sont déjà dans le bonus. Personne ne les attendait là, ni dans le top 8, ni dans le top 24. Ils y sont, c'est déjà bien pour eux. Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre, tout simplement.
Bon, et si le PSG porte cette étiquette de favori, c'est aussi parce que le PSG est dans une forme éblouissante depuis plusieurs semaines. Quelques chiffres, invaincu depuis 16 matchs, 13 victoires, 3 matchs nuls, quasiment 3 buts inscrits par match. Le petit bémol, peut-être, vous me direz, c'est le fait d'encaisser un but par match. Est-ce que c'est, Boukari, la meilleure... La réponse est presque dans la question. La meilleure version du PSG de Luis Enrique que l'on voit en ce moment?
Ouais. Peut-être, oui, régler un... Défensivement, c'est quelques buts qu'ils prennent. Mais sinon, oui, on les sent vraiment monter, mais vraiment monter en puissance.
C'est vraiment perceptible depuis, je ne sais pas à quand vous le datez, ce déclic, ce changement. Beaucoup diront Manchester City, ça remonte peut-être un peu.
Non, même avant.
Un peu avant, ouais. Moi je trouve qu'on était beaucoup plus serein. En fait, moi je dirais que là, on a presque une équipe, une véritable équipe, comme on n'a pas eu depuis très longtemps. Je dirais presque depuis Ancelotti, Laurent Blanc, moi, carrément. Bon, alors ce qui va nous manquer, moi je pense que là, on pourrait presque aller au bout, tellement en plus, je trouve que... Non, mais moi,
je suis le premier à souhaiter.
Mais j'ai un mais, j'ai un mais. Moi, je pense qu'on peut gagner la Ligue des Champions que quand on a un très grand gardien.
Oui, bon, voilà. C'est autre chose. Ça t'étonne de voir le PSG aussi rayonnant, Omar, ou c'est finalement l'aboutissement
du
travail?
Non, pas forcément, c'est la récompense du travail de Luis Enrique. Et quelque part, tu parlais de City, mais c'est très logique que ça se passe lors d'un match de Ligue des Champions. Parce que justement, sur les matchs d'avant, on a eu ce manque de réussite. Je mets de côté Arsenal ou le Bayern, on a été hyper dominé.
Luis Enrique l'a dit, répété,
mais il y a l'Atlético et le PSV, par exemple, c'est des matchs qu'on a gagnés au Parc. Il y avait déjà ce bon contenu et ça fait plaisir de voir les efforts récompensés. Je mets de côté la Ligue 1 parce que la Ligue 1 étant ce qu'elle est et donc étant trop faible, c'est difficile de tirer des vrais enseignements. Mais en tout cas, je suis content de voir l'équipe aussi bien huilée, aussi bien fonctionner. Je pense que ça promet pour le printemps européen.
Alors j'aimerais que l'on écoute à ce sujet la progression du Paris Saint-Germain. Adi Hütter, le coach de Monaco, juste après la défaite de son équipe au Parc. L'entraîneur autrichien très, très élogieux avec le PSG.
Félicitations à Luis Enrique et à cette équipe qui pour moi est l'une des meilleures en Europe à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est la meilleure version du PSG que j'ai pu affronter depuis mon arrivée à Monaco.
Alors, meilleure version du PSG de Luis Enrique, nous dit Adi Hütter, mais l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Il s'emballe pas un petit peu là quand même? Non.
Moi, je trouve pas, parce qu'en fait, on a un milieu de terrain qui est quand même très séduisant. On a une attaque, parce qu'on ne parle pas de Ramos là depuis le début. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'a pas le droit d'être titulaire, mais peut-être qu'il va avoir le droit.
Il a le droit, mais il y a des postes doubles.
Oui, mais si on enlevait Ruiz et qu'on mettait Doué à la place de Ruiz, on pourrait faire jouer devant Barcola, Dembélé et Ramos. Ce serait vraiment incroyable. En tout cas,
Paratchke, là, au passage.
Mais oui, mais ça fait un super jeu. Non, mais de toute façon, on gagne une Ligue des Champions quand on a un banc et un grand gardien. Je trouve que ça y est, on a un banc. On a un banc, parce qu'on a eu souvent ce problème. C'est-à-dire qu'on avait des joueurs extraordinaires, mais alors on en avait deux, trois de blessés et on était tout d'un coup une autre équipe avec un autre visage. Là, quand on a un ou deux blessés ou qu'il y a des mecs qu'on doit reposer, bah en fait, on a des gens du même niveau. Ce qui nous manque, pour moi, c'est un grand gardien. C'est ce qui fait que je me dis que c'est, pour le coup, on n'est pas une des meilleures équipes d'Europe à partir du moment où on n'a pas un portier incroyable. Et on ne l'a pas.
L'image est quand même, le statut de cette équipe parisienne a quand même beaucoup changé depuis quelques semaines. Adi Hütter nous parle de l'une des meilleures équipes d'Europe. Et Eric Roy, la semaine dernière, pour faire écho à tes propos, expliquait que le PSG faisait partie, pour lui, des prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions.
T'as un joueur de Stuttgart qui avait déclaré aussi après le match que c'était la meilleure équipe contre qui il avait joué de toute sa carrière.
Ouais.
Il a dit, ça court de partout, c'est impressionnant, ça n'arrête pas. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est au-delà du cas individuel de Dembélé, on a Doué, On a Kvara qui va se fondre dans ce collectif-là. Vitinha, on a Joao Neves, on a Vitinha. Franchement, c'est des jeunes joueurs et c'est des paris sur l'avenir hyper intéressants. Moi, je pense que si on la gagne pas cette année, on la gagne dans les 5 ans.
T'as cette image, cette sensation aussi de rouleau compresseur en devenir ou vraiment équipe qui est en train de marcher sur ses
adversaires ? Ouais, c'est ça, en devenir. Parce que au début, on sait comment il était critiqué. Hein, et ça a pris du temps avant que la mayonnaise prenne. Et là... Bon, après, il ne faut pas s'enflammer. Alors,
exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est difficile de garder la tête froide.
Voilà.
Quand on encense autant les joueurs, l'équipe, le collectif.
Le truc, c'est ça. C'est que. Parce que j'ai l'impression qu'en championnat, on est. Enfin, Paris est inarrêtable. Mmh. Inarrêtable. Là, ça y est, c'est
quasiment un an, je crois. La dernière défaite contre une équipe de Ligue 1, une éque française, c'est Toulouse.
Toulouse, bon, mais elle est 9 points. Dans un match en championnat,
oui,
le dernier match de Mbappé.
Avec le jeu surtout, ce dont je parle. Mmh. Et en Ligue des Champions. Pour oublier aussi, il joue contre une équipe de Manchester City qui est mal au point,
ouais.
qui n'est pas très bien. Ouais. Donc,
Carrie, à la 53e, quand il y a 0-2, on ne se dit pas City, ils sont mal en point, si tu veux.
Ah ben moi, j'y croyais. Parce que justement, City, le City de nos jours, c'est pas trop
non,
ça. On va pas se mentir. Très franchement, moi, je reste vraiment. Et puis, à voir, parce qu'il faudrait rencontrer un vrai favori.
Et là, on pourra mieux juger.
Mais c'est vrai qu'avec Paris, on a tendance, et ça, c'est beaucoup les médias, mais même nous, hein, on a tendance, on est soit nuls, soit des génies absolus.
Oui,
c'est-à-dire que soit on est les favoris, soit on est les plus mauvais.
Avant même les barrages, exactement. À futur potentiel prétendant.
Mais il faut voir aussi ce qu'on a montré, la différence de ce qu'on a montré dans le jeu. C'est pas la même équipe.
Non.
Tu vois, donc
c'est l'aboutissement aussi du travail de ces 18 derniers mois.
C'est l'impression que tout se met bien en place. Et ok, c'est une dynamique, il faudra voir, mais
voilà.
Ça donne envie. Moi, j'ai envie de les voir. Je suis impatient du match de demain et du futur match contre Liverpool ou Barcelone.
Oui, ça sera le tour d'après début mars. On va refermer cette seconde partie avec la composition probable ou peu probable du Paris Saint-Germain demain soir à Guingamp. Alors, dans les buts et derrière, ça sera du classique. Achraf Hakimi, qui ne s'était pas entraîné, qui n'a pas joué vendredi contre Monaco, sera là. Fabian Ruiz devrait remplacer Warren Zaïre-Emery blessé. Et devant, on partirait sur une attaque. Kvara, Dembélé, Barcola. Ça vous va ou vous aimeriez voir on peut parler de Doué, on peut parler de Ramos, on peut parler de Kanguini, de qui vous voulez.
Ça me va, ça fera le travail contre Brest demain, je pense. Sachant que, comme tu viens de l'énoncer, si jamais il y avait des petits problèmes, on a un banc qui est quand même assez incroyable.
Ouais.
Pour moi, le banc, il pourrait jouer en Ligue 1, tout simplement, et finir dans le top 3.
Et c'est une des premières fois où on a vraiment un banc.
Et c'est une des forces, vraiment, de cette équipe-là. Et là aussi, j'ai l'impression qu'on est passé de...
Et il faut le reconnaître, c'est la volonté de Luis Enrique.
Oui, bien sûr. Et on est passé de... On a quasiment pas de banc parce que Doué ne jouait pas, n'était pas performant. Ramos était blessé, Kvara n'était pas là, à une attaque où tous les postes sont doublés.
Effectivement. Comme il a dit, c'est une bonne dynamique. Espérons qu'elle dure 4 ans, 10 ans. Et c'est surtout ça.
Et qu'elle
se renforce aussi par la suite avec les mercato qui arrivent.
Mais
donc, voilà.
ce qui est très intéressant, c'est l'impression de force qui se dégage de cette équipe. Là, on prend Monaco vendredi. C'est pas de leur faute. Monaco, ils font leur match. Bon, ok, ils sont pas tranchants dans les occasions parce que Minamino, il peut ouvrir le score à la 4e minute. Mais il y a ce côté implacable de se dire Paris est au-dessus de son adversaire et trop fort.
Et va user,
on allait gagner quoi user, qu'il arrive.
Va avoir l'adversaire à l'usure.
Je pense que c'est ça qui est intéressant vis-à-vis des futurs adversaires européens. Parce que tu vois, jouer Liverpool ou Barcelone, c'est jamais évident. Mais je ne pense pas que eux
Liverpool
non plus.
Il y aura une belle guerre d'usure. Si
je ne pense pas qu'eux non plus soient forcément contents d'avoir tiré le PSG.
Bon, les réponses pour la compo demain aux alentours de 17h30. Et attention, on le répète, le match est à 18h45. On va se quitter quelques instants. Et on se retrouve pour la dernière partie pour évoquer cette grande vague de prolongation au Paris Saint-Germain. Restez avec nous. De retour sur le plateau de Cop Paris avec un ancien joueur du PSG, Boukari Dramé. Ça discute pendant la pause. Aurélia Grossman et Omar Altoundag sont toujours là. Et on va revenir sur la soirée de vendredi. Mais côté coulisses, si j'ose dire, il y a eu le festival offensif et puis à l'avant-match, une grande fête avec l'annonce l'officialisation de 7 prolongations au Paris Saint-Germain. Alors pour ceux qui n'étaient pas au parc, le club l'a aussi matérialisé par une très belle vidéo sur les réseaux sociaux. Petit extrait et on en reparle juste après.
Paris, on a quelque chose à te dire.
Paris, tu es un aura, un Karim unique. Et tu nous le transmets.
Ça, c'est Paris.
L'avenir s'écrit à Paris.
Yeah. Bon, y a des ratés des fois au Paris Saint-Germain sur le terrain en coulisses, mais vrai coup de cœur pour cette vidéo sur le fond et sur la forme. Enfin, je sais pas vous, mais moi.
Ah bah si, moi j'étais contente. Ouais. D'abord parce que ça fait quand même des années qu'on comprend pas du tout la politique du club et que là il y a une forme de logique. Donc rien que ça, ça rassure. Luis Enrique, il a des vrais résultats. On le prolonge. On le prolonge pas à un moment bizarre où justement ça marche pas. Enfin voilà.
Ouais. Pour ça, Thomas Tuchel.
Voilà, ou alors de virer quelqu'un qui a des résultats incroyables, ou de mettre la pression à quelqu'un parce qu'il a raté un match. Enfin bon, on a eu des Ancelotti et des gens maltraités. Enfin, donc là déjà, ça veut dire est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils mûrissent, est-ce qu'ils comprennent le foot. De la même manière, je trouve que re-signer autant de joueurs alors qu'on a créé une véritable équipe, bah, je pense que pour nous les supporters, mais même pour les joueurs,
oui,
pour les joueurs, ça permet de se projeter.
Le message envoyé est positif. Parce
le message envoyé,
on compte sur vous. En fait.
Exactement. Et il n'est pas de dire, bah, si on a des bons résultats cette année, on prend des stars l'année prochaine. Voilà.
Médiatiquement, là, je reste sur la forme. C'est aussi un gros coup que le PSG voilà, fait en regroupant, en événementialisant toutes ces prolongations, Omar.
Absolument. Et puis, mine de rien, c'est peut-être passé un peu inaperçu d'un point de vue franco-français, mais ramener Kvaratskhelia, qui était désiré par beaucoup de gros clubs européens, t'envoies un message fort.
Ouais, ouais.
Peut-être moins fort que Messi, Neymar, Mbappé de l'époque, mais mine de rien, tu te places sur la carte du football européen.
Boukari, ça dit quoi cette vague de prolongation au Paris Saint-Germain? Ça dit que le club va bien?
Oui, oui. Et c'est, je pense, des joueurs qui pourraient être le noyau pour le futur. Voilà, c'est des joueurs cadres.
Et
espérons que ce soit par la suite. Parce que, comme elle l'a dit, on reste toujours sur nos fins, mais j'espère pas cette fois.
Bon, alors, parmi toutes ces prolongations, il y en avait deux que l'on attendait tout particulièrement. Celle, bien évidemment, de Luis Enrique, elle était dans les tuyaux depuis le mois d'octobre. On va écouter la réaction du coach espagnol et on en reparle juste après.
Quand vous vous sentez bien dans un club et que vous ressentez la confiance de ceux qui vous entourent, et c'est mon cas, pourquoi se fixer des limites et des échéances? Je suis très reconnaissant de ce soutien et j'espère le rendre, si ce n'est par des résultats, au moins par mon travail. Mais nous verrons bien ce que le futur nous réserve.
Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur ce plateau qui considère que Luis Enrique n'est pas l'homme ou complètement l'homme de la situation? Allez-y, hein, si c'est le cas.
Demandez à côté, je crois qu'il y a Daniel Riolo qui est pas loin.
Non, 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 il n'a jamais considéré ça.
Cette prolongation, il la mérite. Et le timing, tu en parlais, quand l'info est sortie sans être officialisée, le timing était un petit peu remis en cause. Là, c'était le bon moment?
Ah, pour moi, c'est le bon moment de le re-signer. Et puis, je trouve qu'annoncer surtout qu'il a un projet, parce que en fait, ça fait projet de club pour une fois.
Mm-hmm.
Ça fait pas tout d'un coup le bon vouloir du prince ou de je sais pas qui. Là, on sent qu'il y a un projet de club.
Et surtout, le meilleur entraîneur au football, c'est la victoire. Et il n'y a pas série plus positive que la série actuelle. Donc forcément, pour annoncer toutes ces prolongations, tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux. Je parle en tant que supporter et en tant que professionnel. Et donc du coup, c'était le meilleur moment.
Et puis la longévité, la stabilité. S'il va jusqu'au bout de son contrat, jusqu'en 2027, ce sera l'entraîneur à la plus forte longévité sous l'ère QSI.
Mais tu sais que je me fais la réflexion, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un entraîneur faire plus de 2 ou 3 ans au PSG? Ça commence à dater.
Sous l'ère QSI, le plus, ça commence à dater. Laurent Blanc, 3 ans.
Voilà, exactement.
Toi qui as été au PSG dans les années 2000.
Oh non, là,
il y avait, ouais,
une petite pensée pour Monsieur Bergerot.
Écoute,
voilà,
c'est ce que j'ai à dire. Je me demande si c'est pas Arthur Georges, le regret disparu. Arthur Georges. Essaye encore, je suis pas sûr.
Sacré moustache, Arthur Georges, on n'en parle pas assez.
Mais non, non, mais c'est vrai que 4 ans, ça serait.
4 ans, ce serait fou.
Ça serait assez dingue. Ton regard sur Luis Enrique, du point de vue du joueur, toi, remets-toi encore une fois dans la peau du joueur. T'aurais aimé être coaché par Luis Enrique? T'aurais pu jouer avec ses idées de jeu?
Ah ben, c'est un joueur. C'était un très grand joueur. Hein.
Ouais.
Après.
Mais l'entraîneur.
Oui, parce qu'on sent qu'il veut faire progresser ses joueurs, surtout sur l'aspect technique, le jeu, vraiment sur le jeu. Tu sens qu'il a un projet de jeu et tu peux que progresser. C'est un peu à l'image de Gasperini à Atalanta que j'ai eu.
Mm-hmm.
Tu prends un joueur au hasard, tu le mets dans l'équipe, t'as l'impression que c'est un phénomène.
Parce qu'on parle d'un sacré mister avec.
T'as l'impression que ça devient un phénomène. Donc voilà.
Ouais.
Il sait comment bonifier les joueurs, comment les faire progresser.
Ouais.
Et tirer le meilleur de chacun.
Le résultat du sondage, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Luis Enrique n'avait pas été prolongé trop tôt. C'est un grand non. À plus de 67%, plus de 2/3 des votants estiment que ça y est, c'était le bon moment pour le prolonger. L'autre prolongation attendue, alors celle-ci, elle était incertaine. La prolongation de Nuno Mendes, dont on a pu entendre qu'il songeait à quitter le club l'été prochain. Accord financier a été trouvé, il va devenir l'un des plus gros salaires du vestiaire. Déjà sportivement, est-ce que c'est une bonne, très bonne nouvelle de prolonger Nuno?
C'est une très bonne nouvelle.
Bien sûr.
Ah, je n'ai pas d'accord.
Non, Romain n'est pas content.
Non, en fait, d'accord. Moi, j'étais un peu chagriné par la manière dont se sont passées les choses.
Ouais.
Et j'avais une petite réserve parce qu'il a eu une grave blessure. Mais après, ça reste une bonne nouvelle pour le club et pour l'avenir. Après, le truc, c'est la clé, c'est le nombre de zéros qu'on a mis sur le chèque. Quoi. C'est le football actuel.
Ouais, il a fallu faire un gros effort financier.
Mérité, non ?
Ouais.
Je trouve, hein, par rapport aux autres, quand même.
Moi, ce qui me dérange, je te dis pas que c'est pas mérité, évidemment, tant mieux pour lui. Moi, ce qui me dérange, c'est tout le cinéma autour de si j'ai pas ce que je veux, je m'en vais, en fait. Ça envoie pas le bon message.
Est-ce que ça se passe autrement avec les Qataris ? Je pense que jamais.
C'est un poste très recherché, le poste de latéral gauche.
C'est
un petit peu en pénurie.
À mon avis,
toi, tu jouais milieu ?
Non, latéral aussi. Selon moi, il a joué avec la concurrence et tout. Il voulait rester à Paris.
Quel regard tu portes sur le joueur dont on dit souvent que balle au pied offensivement, c'est exceptionnel, mais que défensivement, il y a pas
de lacunes. C'est vrai qu'il y a des lacunes défensivement. Peut-être qu'il donne beaucoup offensivement, du coup il est un peu défensivement, il est un peu moins lucide pour défendre. Il faudrait essayer de réguler ça pour essayer d'être un.
Il est défenseur à la base. Quand
même. Voilà. Mais aujourd'hui, les latéraux.
Enfin, il est défenseur.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
Aujourd'hui, les latéraux.
Ils débordent des centres du centre.
Dans la comparaison, dans la manière d'être offensif, ça me fait un peu penser à Roberto Carlos de l'époque avec le Real Madrid, à qui on reprochait de trop monter aussi, notamment.
Oui, mais c'était une autre période. Aujourd'hui, tous les latéraux, quasiment. En fait, on trouve qu'un latéral n'est pas bon s'il ne monte pas.
Effectivement.
Aujourd'hui, un latéral ne monte pas, il ne déborde pas, il ne fait pas des centres. Il n'est pas bon.
Et c'est vrai que quand il montait moins que l'avantage a été donné à Hakimi, on disait Nuno Mendes ne monte plus assez. Et
des fois, il monte vraiment beaucoup parce que sur l'action du 2-1 à Brest, c'est lui qui est en position litigieuse de hors-jeu au moment du but de Dembélé.
Et en même temps, il donne encore une place décisive à Ousmane Dembélé. Vendredi soir, un petit mot rapidement également. Alors, sur deux prolongations qui étaient attendues, Hakimi, Vitinha jusqu'en 2029, il n'y avait pas trop de doute sur ces deux-là. Bon, là, c'est, comme tu le disais, c'est une manière de sécuriser l'avenir en prolongeant deux joueurs qui sont ou qui vont devenir des cadres. Ils le sont.
Ils le sont.
C'est déjà un cadre.
Ouais. Et ce sont de très bons joueurs. Moi, Hakimi, déjà à l'Inter, pour moi, je le voyais comme le meilleur latéral droit du monde.
Il l'est aujourd'hui, on peut le dire.
C'est très très fort. Ouais. Et en plus, Hakimi, moi, ça me fait doublement plaisir parce qu'il faut se rappeler qu'au moment du départ de Kylian Mbappé, il y a eu ce petit bruit de couloir qui tendait à dire qu'il allait peut-être le rejoindre chez les Merengues. Donc je suis content de voir Hakimi prolonger chez
lui. Il est bien meilleur depuis qu'il n'y a plus Mbappé. Parce qu'Mbappé, il aspirait tous les ballons.
Ouais.
Et qu'en fait, là, Hakimi, il a, je trouve, beaucoup plus de sens du jeu.
Alors,
il est bien meilleur sur le terrain. Il a une meilleure
vision. C'est vrai qu'il est meilleur, mais
même en dehors du terrain, ça lui a fait du bien.
Alors, je trouve qu'il y a aussi une certaine maturité et on évoque souvent le cas d'Hakimi.
Peut-être que ça a coïncidé, mais...
Il est déjà vice-capitaine. Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi le futur capitaine du Paris Saint-Germain ?
Ah, ça pourrait.
C'est une idée que l'on entend souvent pour un joueur qui est vice-capitaine. Boukari, on a parlé de cette prolongation parce que trois jeunes ont également renforcé, on va dire, leur avenir avec le PSG vendredi. Trois Titi comme toi formés au club. Ibrahim Baye, Nawafel El Hanache qui ont signé leur premier contrat pro et Yoram Zagué qui a prolongé. J'imagine que ça te laisse pas insensible et que c'est aussi la preuve que le PSG, c'était peut-être moins le cas à ton époque, peut laisser la place aux jeunes.
Oui, bien évidemment. Après,
faut les faire jouer.
Voilà.
Ouais.
Il est là le truc. Le plus dur, il va être là.
Ouais. On a vu Sénim Mayoulou jouer quelques minutes lors des derniers matchs.
Il y a eu un petit peu de temps de jeu en début de saison.
Ouais, mais après, arrive un moment, quelques minutes, ça va, c'est pas assez. On verra bien. J'espère qu'ils vont être intégrés, qu'il y aura assez de matchs.
C'est pas Zaïre Emery qui veut et s'imposer à 16 ans.
C'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde.
Ouais, mais on le fait beaucoup plus ces dernières années.
Justement, je disais
tout à l'heure que ce que tu as fait, toi, c'était une énorme perf. C'est-à-dire qu'à l'époque, les jeunes formé au club, ne jouait jamais.
Toi, tu fais une saison quasiment titulaire.
Oui, c'est incroyable.
Poste de latéral gauche, c'est vrai, à l'époque.
Mais à l'époque, c'était unique, en fait.
Ouais, quasiment unique, ouais.
Aujourd'hui, quand même, on en intègre régulièrement.
Mais non, mais pour reprendre ce que disait Kylian Mbappé, le football, il a changé. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, 18-19 ans, à l'échelle d'un joueur, c'est vieux. Regardez Lamine Yamal, par exemple. Ouais, il n'est même pas majeur. On en parle comme d'une pépite. On a parlé de Warren Zaïre Emery. On peut prendre l'exemple d'Mbappé à l'époque de Monaco. Il faut se dire que ça va vite, en fait. Ça va vite et c'est compliqué.
Dernier personnage dont je voulais parler, un élément fort du club qui est passé sous les radars de cette vague de prolongation, c'est le conseiller sportif du club, Luis Campos. Je vois Aurélia qui a envie d'en parler. Il sera libre en fin de saison. Son avenir n'est pas encore scellé. Il y a la volonté de le prolonger, celle de Luis Enrique également. Fait simple, rapide, le PSG doit-il conserver Luis Campos ?
Je vous laisse vous prononcer avant moi. Moi, il sait très bien ce que j'en pense.
Ça sera, je pense que ça va être concerté en partie avec Luis Enrique. Je sais que Luis Enrique pousse pour que Campos prolonge, à savoir qu'il y a aussi d'autres directeurs sportifs qui ont été scrutés. Oui. Hein. Mais donc, moi, ça permettrait d'assurer une forme de continuité et de pérennité au sein du club. Après, on n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants.
Il fait partie de l'équation et de la stabilité, Luis
Enrique. Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui.
Je mais le en rejoins. Version exclusive, alors.
Je le rejoins, mais je le rejoins. Ça serait voilà, un peu stupide, surtout qu'il a, voilà, fait partie
c'est
de...
C'est pas mal, les derniers mercato. Alors après, voilà, il y a quelque chose peut-être
à redire. Il a participé à ça, donc voilà.
Cet hiver et l'été dernier, le travail a été fait.
Oui, oui, même si au début, on n'était pas très contents. Mm. Ben, il fallait patienter, tout simplement.
Aurélia va nous rhabiller.
Non, mais moi, j'avoue que l'été dernier et le mercato d'hiver m'ont beaucoup plu. Ouais. Après, est-ce que c'est Enrique? Avant, moi, j'ai un vrai souci. C'est-à-dire que quand tu regardes les montants, et il y a des joueurs qui ne servaient à rien, qui ont été payés des fortunes. Et puis moi, j'ai un problème d'avoir un directeur sportif, enfin, en tout cas quelqu'un qui recrute pas que pour nous. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il bosse pour lui. Moi, j'ai déjà été salariée ou indépendante. Tu ne bosses pas de la même manière. Donc j'ai un vrai problème à avoir quelqu'un qui bosse aussi potentiellement pour d'autres clubs. Moi, je suis OK pour le re-signer. Je le trouve très bon. S'il en exclut, c'est-à-dire que tout d'un coup, son projet, c'est le PSG. Son projet, c'est pas lui. Si il bosse pour plusieurs clubs, son projet c'est lui.
Son projet, Aurélien, c'est comme tout le monde dans ce milieu, c'est sa poche.
Faire du blé. Bon. Ouais, mais c'est un vrai souci.
On va s'arrêter là, pas parce que je veux vous censurer, mais parce qu'on n'a plus le temps. On va regarder le calendrier du Paris Saint-Germain avec ce double rendez-vous face à Brest en Ligue des Champions. Demain et mercredi 19 février, entre-temps, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement à Toulouse. On passe à l'Omnisport avec les résultats de vos clubs franciliens du week-end avec Quentin Grébel.
Ah, les sports de hangar.
Un festival de points et une victoire face à un concurrent direct pour le titre. Le Paris Basket ne pouvait pas mieux fêter le premier anniversaire de l'Adidas Arena. Dominé pendant 20 minutes par l'ASVEL, les Parisiens s'en sont remis à leur pépite Nadir Ifi et TJ Shorts, auteurs à 2 de 55 unités. Succès 111 à 96 grâce à une solide deuxième mi-temps. Paris rejoint Cholet en tête du classement de Betclic Elite. Une course et deux vainqueurs. À Bercy, Willem Belossian et Juste Kouaou Maté ont réalisé l'exploit de terminer leur finale de 60 mètres haies à égalité parfaite. Un chrono commun de 7 secondes et 516 centièmes que même la photo finish n'a pu départager. Pascal Martineau-Lagarde a lui fini quatrième pour son dernier Paris-Bercy. À 33 ans, le recordman français du 110 mètres haies prendra sa retraite en fin de saison. Le retour sur le terrain a été corsé, mais Elohim Prandi et les siens ont vaincu la malédiction. En quart de finale de Coupe de France, le PSG Handball a vaincu Nantes après 4 verts consécutifs contre ce même club. Mais il aura fallu batailler jusqu'au tir au but pour faire la différence. Le double tenant du titre éliminé, les Parisiens sont désormais seuls favoris. Prochain match, jeudi en Ligue des Champions.
L'Oignon.
Comme Paris, c'est déjà fini. On est en train de faire les vieux souvenirs du Paris Saint-Germain de l'époque Boukari Dramé. Merci beaucoup, Boukari. On te souhaite une très très bonne route avec le
FC93,
la montée en national en fin de saison.
J'espère.
Merci à Aurélia Grossman. Merci à Omar Altundag.
Merci à vous.
Et à Maxence Venot qui était ce soir à l'édition. Très très bonne semaine à tous et on se retrouve lundi prochain dans Coupe Paris.